Eh bien, bonjour à tous, toutes, ceux qui n'ont pas vu, heureux d'être là ce matin. Je dirais même, bonjour ma famille, je suis fier d'avoir une famille comme vous. La question que j'ai ce matin, c'est, qu'est-ce qui nous pousse, nous chrétiens, à nous préoccuper de notre prochain ? Est-ce qu'on peut appeler ça de la solidarité chrétienne? Alors la solidarité, on peut la prendre dans deux sens. Hein. On peut être solidaire pour faire le mal, mais on peut être aussi solidaire pour faire le bien. Dans le dictionnaire, il nous dit que la solidarité est un sentiment qui pousse des personnes à s'accorder une aide mutuelle. Alors, est-ce que les chrétiens exercent la solidarité? Alors, si c'est la solidarité, j'aimerais bien qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu pour voir à quoi elle ressemble, la solidarité, dans la Bible. Le premier passage que je vous propose de lire, c'est dans Jean, la première épître de Jean, le chapitre 4 et le verset 21. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. En donnant à manger à ceux qui ont faim, en donnant à boire à ceux qui ont soif, en accueillant l'étranger, en visitant les malades, en allant vers les prisonniers. J'étais à la prison ce samedi. Continuez à prier pour eux, ils en ont besoin. En faisant toutes ces choses, nous, disciples de Jésus, le Messie, on répond à la demande, au commandement de notre Maître. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. L'enseignement social de l'Église puise ses racines dans les messages de la Bible, plus spécialement dans les messages de l'Évangile. La première fois quand j'ai fait ma formation dans le domaine social et qu'on a parlé de l'historique du social, on m'a cité des versets bibliques. Mon professeur s'appelait Jean-Robert Yapoujean. Je m'en souviens encore. L'amour du prochain puise sa force dans l'amour de Dieu. C'est le devoir de chaque fidèle, mais c'est aussi le devoir de la communauté tout entière, de l'Église locale à l'Église universelle. L'Église doit pratiquer l'amour du prochain selon les Écritures. Il y a dans le monde des personnes, proches ou éloignées, qui vivent dans des situations précaires. Problèmes de nourriture, qui ont faim, qui ont froid, sans abri, pas de soins, manque de soins. Et parfois, on a l'impression que le monde actuel dans lequel nous vivons, on a l'impression qu'il devient parfois insensible à ces situations. Même parfois, on a l'impression que ce n'est même plus un scandale. Même des fois, on ne pleure même plus des fois devant des situations comme celle-là. Un jour à Paris, j'étais dans le métro, vous savez, le métro, ça file, hein. Les gens, ça va très vite, ça court à droite, ça court. Tous les sens, il y a ceux qui sortent, il y a ceux qui rentrent. Et il y avait un homme qui avait les cheveux tout, le mot c'est dégueulasse, tout sale, tout crado, pas lavé, la gueule noircie, les vêtements à moitié débraillés, déchirés, pas de chaussures, les pieds tout noircis, tout crado, qui était là, au milieu de tout ça. Mais les gens, ils tracent. Hein. Personne qui va s'arrêter, qui va se mettre à pleurer. Quoi. La personne qui va s'arrêter, qui va dire, Mais c'est scandaleux, quoi. Comment on peut laisser cette personne comme ça, quoi? Mais aujourd'hui, c'est le monde dans lequel on vit. C'est comme ça. Il y a dans le monde, donc, des personnes qui se retrouvent dans des situations précaires. On a vraiment l'impression, des fois, qu'on est dans un monde insensible. On va jouer à Jacadi. Alors, normalement, si je me rappelle bien ce jeu, quand je dis pas Jacadi, on le fait pas. Et quand je dis Jacadi, on le fait. Dans la lettre de Jacques, qui s'adresse aux communautés juives qui sont dispersées, loin de Jérusalem, et qui vivent dans des sociétés qui leur sont hostiles, pas de chance, ils sont juifs, pardon, chrétiens, pardon, étrangers, total. Là, c'est ce qu'il faut pas. Alors déjà, moi, maghrébin, étranger, la solidarité dans le livre des Actes, et je reviendrai à Jacques tout à l'heure. Dans le livre des Actes, au chapitre 4 et au verset 32, il est écrit, 32, 34, 35, 32, 33, 34, 35, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait ses biens lui appartient en propre, mais il mettait tout en commun avec beaucoup de puissance. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun en fonction de ses besoins. Dans l'épître de Jacques, chapitre 2 et au verset 15, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise « Va en paix, va te réchauffer et va te rassasier. » Et que vous ne lui donniez point le nécessaire pour son corps, à quoi cela sert-il? Jacques, en tant que dirigeant de l'Église de Jérusalem, a écrit à ses communautés pour les motiver et les exhorter à suivre les valeurs de la tradition judéo-chrétienne. Un des thèmes principaux de la lettre de Jacques est la solidarité, la compassion. Jacques l'annonce au chapitre 1er, verset 27, « La religion pure est sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Et il va continuer à développer cela dans le chapitre 2 en citant des exemples concrets. Il nous parle aussi d'une piété, il nous fera remarquer la piété, la spiritualité authentique avec des actes concrets, sans blabla et sans belles paroles. Dans la Bible, les orphelins et les veuves représentent les personnes les plus démunies. Ils n'ont personne pour subvenir à leurs besoins, personne pour les protéger. À cette époque-là, c'était l'homme qui était le chef de la maison, le mari ou le père, qui avait la responsabilité de prendre soin de sa famille. Et Jacques nous présente Dieu sous les traits d'un père, comme celui qui a la responsabilité du bien-être de chacun. Faire des visites, c'est prendre soin de l'autre. C'est donner ce qui est nécessaire au bien-être. Pour Jacques, cette forme de solidarité est en cohérence avec la tradition, puisque le prophète Ésaïe prononcera ces paroles au nom de l'Éternel. À partir du verset 6, chapitre 58, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. » Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. N'est-ce pas là rendre un culte raisonnable? Jacques lance un appel à la solidarité. Dans le chapitre 2, on y trouve le mépris, la discrimination des pauvres au sein de l'Assemblée. Jacques nous demande de ne pas faire de favoritisme, à ne pas faire de distinction entre celui qui est riche et entre celui qui est pauvre. Ces valeurs n'ont pas de place dans l'enseignement de Jésus-Christ. Nous sommes tous égaux devant Dieu, aux yeux de Dieu. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu, notre Père à tous. Si un frère ou une sœur est dans le besoin et qu'on lui dise, comme je le disais tout à l'heure, « Shalom », Shalom, mon frère. Va en paix. Et surtout, mets-toi bien au chaud. Ah, j'oubliais, je te souhaite un bon appétit. Pour Jacques, si nous ne manifestons pas la foi avec les actes, notre foi on peut chanter des belles paroles comme on a chanté tout à l'heure. On peut exprimer notre foi, notre amour pour Dieu. Si cela n'est pas suivi d'actes, quel est le sens de tout cela? Jacques est radical dans son message. Pour lui, celui qui est indifférent envers son frère, qui est dans le besoin, ce n'est pas un frère dans la foi. Et il pourra raconter partout qu'il est chrétien, mais pour Jacques, non, ce n'est pas un frère dans la foi. Pour Jacques, la foi authentique s'accompagne avec de bonnes actions par solidarité auprès des démunis. Aux yeux de Dieu, la foi authentique, c'est celle qui va plus loin que la confession. Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, oui. Et Jacques rajoutera, oui, je l'affirme, mais le diable aussi, les démons aussi croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ils tremblent. Selon Jacques, la foi qui ne s'accompagne pas d'actes concrets, de solidarité, est une foi morte. Imaginons si nous disions, nous, à l'Église persécutée, comme on a l'occasion de pouvoir partager un peu tout ce que fait Porte Ouverte aujourd'hui. Imaginons que nous disions à l'Église persécutée, nous allons prier Dieu pour vous, pour qu'il vous envoie des Bibles. Nous allons prier Dieu pour vous, pour qu'il fasse descendre pour vous de la manne du ciel et des cailles, pour que vous puissiez vous nourrir, sans bouger le petit doigt. De nos jours, ce n'est pas possible. Merci Seigneur qu'il y a des frères et sœurs qui se mobilisent, pas seulement en parole, mais aussi en action, qui vont se déplacer jusque dans ces pays, même des fois dans des endroits précaires et dangereux pour eux, pour eux-mêmes, pour que le frère et la sœur qui vit là-bas puissent avoir la Bible dans les mains et de quoi se former, de quoi s'habiller, de quoi se nourrir et de quoi être protégé dans tous les sens du terme. Heureusement, merci Seigneur. Certainement que la lettre de Jacques a dû susciter pas mal de débats. L'apôtre Paul, quant à lui, il déclare que nous sommes sauvés par la foi et non par les actes. Paul met en parallèle la foi et les actes. Mais seulement Paul vise les œuvres de la loi. La circoncision, l'observation des jours de fête, des jours tel jour, l'abstinence de certains aliments, etc., etc. Tous les rituels de la loi. Quant à Jacques, lui, il évoque les actes comme une partie intégrante de la foi. Il vise les actes non rituels, c'est-à-dire l'amour du prochain. Jacques a dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Non seulement c'est la loi royale, je dirais c'est la voie royale. Il fait allusion à la Torah, mais aussi aux enseignements de Jésus le Messie. Et l'apôtre Paul affirme par ailleurs que la loi tout entière s'accomplit dans un commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul, au chapitre 5, versets 14 et verset 15, nous dit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Paul et Jacques ne sont pas en contradiction. Pour Paul, la foi agit par l'amour. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et verset 6, l'apôtre Paul dit ceci, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi seule qui agit par l'amour. Vivre la solidarité, c'est être cohérent dans sa foi en Jésus-Christ et d'être sincère. Ce que dit Jacques a dit, doit se voir dans nos actes et nos attitudes. Il nous faut être cohérents avec ce que nous disons, avec ce que nous croyons. Écouter la parole sans la mettre en pratique, à quoi sert-elle? On ne peut pas se satisfaire de l'écouter seulement. Jacques nous rappelle au chapitre 1er et au verset 22. Mettez la parole de Dieu en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si nous disons avoir la sagesse de Dieu, mais que notre façon d'agir et d'être manifeste seulement notre ambition personnelle, un esprit de rivalité et de dispute, cette sagesse n'est pas de Dieu. Notre monde actuel peut nous éloigner de la solidarité. Les gens du monde font tout pour posséder davantage de biens, de richesses, d'honneurs, pour accéder à la dignité humaine sans aucun égard pour leurs prochains. En prenant soin les uns des autres, nous montrons aux gens du monde, aux autorités, que nous sommes des disciples de Jésus-Christ et que c'est de son enseignement que nous nous nourrissons. c'est de son enseignement que nous agissons. L'espace que nous donne cette société, servons-nous-en pour rouler en sens contraire, je dirais, hein. C'est un peu comme la publicité qu'on voit du gars qui a gagné au loto. On voit toutes les voitures dans un sens et puis lui tout seul dans l'autre sens. Nous marchons en sens contraire, à l'opposé. Il faut que ça se voie. Et ça doit se voir. L'état de notre société peut nous rendre indifférents. Elle peut nous détourner de la solidarité, de l'amour de Dieu, de notre prochain. Alors, pour conclure, pour nous, pour chacun, quelle est notre responsabilité? De quelle manière exerçons-nous ou allons-nous exercer la solidarité? Comment allons-nous la manifester? Puissions-nous enfiler la solidarité comme un vêtement? En tant que citoyen d'une seule et même communauté, en tant que disciple de Jésus-Christ, que le Seigneur nous inspire, que le Seigneur nous soutienne dans nos choix, dans nos décisions, dans nos actions, dans nos actes, qu'il nous donne de la sagesse, qu'il nous aide dans notre réflexion au sujet de notre frère, de notre sœur, qui se trouve ou qui se retrouve dans le besoin, ici et ailleurs. Je finis par ce verset. Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Merci de m'avoir écouté. On peut prendre un temps de prière.